Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. C'est aujourd'hui le dernier épisode de l'année 2023. Merci beaucoup pour votre écoute tout au long de l'année. On va terminer en beauté avec Aurélie Langteau, qui est doctorante en droit à l'Université McGill et chroniqueuse au Devoir. C'est un hasard comme ça, Aurélie, hein? T'es aussi chroniqueuse au Devoir. Ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. On va discuter ensemble de deux sujets qui ont fait beaucoup parler cette année, essayer d'avoir une perspective plus large sur l'affaire. Premièrement, on va revenir sur l'actualité climatique parce que c'est aussi ta spécialité dans le Devoir, comme des chroniqueuses sur les enjeux environnementaux. On va se demander comment est-ce que la conversation médiatique autour des changements climatiques a évolué en 2023. Puis on va parler de l'écroulement, hein, carrément, des secteurs publics. Puis il y a une grève, bien sûr, au Québec historique, à bien des égards, au niveau de son ampleur. Puis on va se demander qu'est-ce que ça veut dire pour les mouvements féministes et pour le mouvement du travail en général. Bienvenue à Détour.
Go.
Non, on vient de bas.
Je pense surtout à mon garçon, là, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va être quoi avec les feux de forêt?
On va probablement frapper un mur bientôt.
Holy shit!
C'est comme si on était pour atteindre un nouveau plateau. On monte une marche à des changements climatiques.
Une mère nature impitoyable aura soufflé le chaud et le froid sur l'été 2023. Le mercure dépasse les 50 degrés Celsius dans la vallée de la mort en Californie et ailleurs sur le globe.
Aurélie, j'avais envie de parler de changement climatique avec toi pour un ensemble de raisons. Ça a été une année très, très particulière à ce niveau-là. Un de tes textes de l'automne qui s'appelle « Point de bascule planétaire », ton texte est assez fort et tu dis notamment « Les formules chocs, les appels à l'aide formelle des scientifiques se multiplient, mais les coups d'éclat se noient systématiquement dans la cacophonie des événements planétaires. » Je pense que c'est peut-être une bonne façon de résumer un peu ce qui s'est passé dans l'année 2023, où particulièrement au Canada, ça a été historique, les feux de forêt, les conséquences concrètes des changements climatiques. Il y a eu un peu d'intérêt cet été, mais soit il y a eu de l'indifférence, ou même carrément cet automne, quand on regarde l'actualité politique de l'automne, c'est les gens qui se battent pour avoir le moins de taxes sur le carbone possible. Aurélie, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe-là entre, d'une part, une année qui a été tellement frappante à plein de niveaux historiques au Canada sur les conséquences des changements climatiques dans notre face, d'une part, et d'autre part, une année marquée par autant de recul, peut-être, même sur les politiques de lutte contre les changements climatiques au niveau fédéral?
Oui, c'est vraiment une bonne question. La première chose, c'est que, bon, je pense qu'en 2023, c'est devenu vraiment, vraiment indéniable. Les gens le voient, la crise climatique, elle a un impact sur leur quotidien ici et maintenant. Ce n'est pas hypothétique, ce n'est pas dans un futur rapproché, c'est vraiment très concret. Et puis si c'est pas parce que les gens subissent les conséquences de phénomènes météo extrêmes, ou vraiment de catastrophes environnementales. Ils vont le voir notamment dans l'impact qu'a la crise climatique sur le coût de la vie, sur l'accès à des biens et services, sur leur qualité de vie au quotidien. Donc, il y a d'un côté cette matérialisation là qui est très très claire des conséquences de la crise climatique, et de l'autre côté, t'as le fait que c'est comme si la dissonance cognitive, elle était cultivée politiquement. C'est-à-dire que on dit souvent que et plus particulièrement la droite politique va être inactive sur les questions de changement climatique, qu'elle n'en fera pas assez. Moi, je pense au contraire que la droite politique, la droite conservatrice, a un agenda très interventionniste pour continuer à cultiver cet écart-là entre l'expérience que les gens font et les solutions politique qu'on propose pour faire face à la crise
climatique. C'est ça que tu veux dire par dissonance cognitive, c'est cet écart-là entre les solutions et le problème.
Absolument, c'est que les gens, dans le langage populaire, on dirait que les gens se font gaslight constamment à vivre les conséquences des changements climatiques ici et maintenant et à devoir se contenter de solutions politiques qui sont médiocres. Ou alors, on va volontairement cultiver une animosité et un ressentiment à l'égard des politiques d'action climatique. On le voit très clairement en ce moment avec la guerre que les conservateurs mènent à la taxe carbone. On va essayer de blâmer tous les maux sur le dos de la taxe carbone, à un point tel que Justin Trudeau a été tenté politiquement de reculer sur sa mesure cette année, là, en ajoutant certaines exemptions à sa taxe, en disant toutes sortes de choses sur le fait que ça méprise les citoyens, on le cadre dans des termes extrêmement populistes. Et ça, quand on fait ça, cette stratégie-là, c'est ça son objectif, c'est de légitimer et de naturaliser la dissonance cognitive entre l'expérience que les gens font de la crise climatique et le statu quo politique.
J'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de cercle vicieux qui s'installe au sens où plus les... T'sais, pour revenir à la question, comment ça se fait que 2023 est paradoxal comme ça, j'ai l'impression que plus les gens voient les conséquences des changements climatiques, regarder la réalité en face, c'est extrêmement difficile. Pour les gens dans l'ouest du pays, dont l'économie est basée sur les hydrocarbures, c'est carrément une crise existentielle. Puis plutôt que d'y faire face, c'est comme si les parades deviennent de plus en plus tentantes. Psychologiquement parlant, c'est comme si c'est trop gros. Puis parce que ça fragilise de faire face à une crise aussi intense, c'est de plus en plus tentant de refuser le changement ou d'avoir de la réticence au changement politique ou de vouloir protéger les meubles qui nous restent. C'est comme si plus les gens sont fragilisés par les changements climatiques, moins les gens ont la capacité politique de souhaiter des actions communes courageuses qui pourraient nous sortir du problème.
Ben absolument, mais en même temps, à ça, j'ai envie de dire que c'est normal parce qu'on place les gens face à la nécessité d'agir et donc de faire certains sacrifices, de se placer dans une situation qui serait inconfortable.
Ouais.
On peut penser de manière très évidente à la transition des emplois dans l'industrie des hydrocarbures ou simplement les incitatifs à ne plus utiliser la voiture à essence, tout ça. Mais on fait ça un peu dans un vide, c'est-à-dire qu'on le fait dans un contexte où on n'offre pas de projet de société structurant qui nous parle de ce que ça va être la société après la transition écologique. Essentiellement, on demande aux gens d'accepter des politiques à la pièce qui misent avant tout sur les efforts individuels ou les contraintes individuelles. Mm-hmm. Puis je suis pas du tout en train de dire que dans la transition écologique, il y aura jamais de sacrifice à faire. Moi, je pense qu'il va y en avoir. Le problème, c'est qu'ici, on demande aux gens de les faire sans offrir une contrepartie de solidarité sociale. Donc, on leur propose pas plus de filet social, on leur propose pas d'amélioration de la qualité de vie, on leur propose pas, on leur montre pas nécessairement à quel point est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'une société qui est plus durable écologiquement. On leur demande juste de faire des sacrifices. Et dans ce contexte-là, moi, je la comprends, cette réticence-là. Puis c'est pas seulement une posture d'empathie humaine qui viserait à légitimer l'inaction ou le statu quo, là. C'est vraiment pas ça. C'est juste de dire, il n'y a pas de projet politique structurant qui nous est proposé. Donc, évidemment que c'est très difficile de susciter l'adhésion des gens à une série de mesures éparses dont on peut douter de l'efficacité.
Toi, en tant que journaliste qui écrit sur ces enjeux-là, semaine après semaine, c'est quoi le plus gros défi que tu vois pour faire de la communication publique sur la question du changement climatique, puis essayer de sensibiliser les gens et ou les acteurs politiques?
Ouais, ben tu sais, je pense que ça revient un peu à cette idée que on est à court de formule choc là.
Mm.
Puis moi, souvent, le modèle auquel je renvoie pour ça, c'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui rivalise de formules très imagées, très évocatrices pour parler de l'urgence climatique. Là, il avait eu cette formule formidable sur la fenêtre qui se referme sur l'humanité.
Mm-hmm.
Des formules tout à fait adossées à la science par ailleurs, mais qui ont une portée symbolique forte. Et ça capte l'imaginaire, l'attention médiatique pendant un cycle de nouvelles, puis après, c'est pas mal terminé. Donc, je dirais que, comme chroniqueuse, c'est le même genre d'enjeu auquel je me confronte. On lit souvent ou on entend souvent le fait que, ah non, mais tu sais, faut pas faire peur au monde. Faut prendre les gens par la main. Bon, je veux bien, là, mais à un moment donné, il faut nommer le caractère existentiel de la menace qui pèse sur nous ici et maintenant. Puis moi, je pense sincèrement qu'au stade où on en est, le problème n'en est pas un de sensibilisation. Le problème n'est pas la connaissance des enjeux. Le problème, c'est la traduction politique de ces enjeux-là, tout simplement. Puis, tu sais, je pense que comme personne qui s'exprime dans l'espace public, on a bien sûr ce rôle-là à jouer, de relayer les faits, de relayer la science, de relayer les possibilités d'avenir aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être des solutions pour le futur? Sauf que on n'est plus du tout dans une ère de sensibilisation. On est dans une ère d'action. Puis à un moment donné, je pense que les gens qui n'ont pas pu être convaincus jusqu'à maintenant, on n'a plus le temps là, d'essayer de les convaincre. Il va juste falloir passer à l'action. C'est plate à dire, mais ce qu'on peut faire dans l'espace public est en ce sens-là un petit peu limité.
Qu'est-ce que ça veut dire, passer à l'action, peut-être pour 2024?
Ça, c'est vraiment une bonne question. Ben déjà, tu sais, c'est une question difficile parce que l'agenda et la question, le problème est tellement vaste puis ça demanderait des solutions tellement radicales, à mon sens, que c'est difficile de dire je souhaite l'avènement de telle politique publique. J'aurais beaucoup de misère à identifier une chose à faire sur le court terme qui ne nécessiterait pas un changement de cap drastique par rapport aux courants politiques qui sont à l'œuvre en ce moment, autant au niveau provincial que fédéral. C'est plate hein, comme réponse, mais c'est ça.
Non, mais c'est important. On l'a vu dans les derniers mois particulièrement, le fédéralisme canadien est en train d'imploser d'une manière que c'est assez tranquille au Québec en ce moment, même comparé à ce qui se passe dans d'autres provinces. Sur la question notamment des changements climatiques, ce que Daniel Smith fait en Alberta, ce que Scott Moe fait en Saskatchewan, on est vraiment dans une résistance à des niveaux qu'on n'a pas vu souvent même de menacer, de refuser de collecter des taxes pour le gouvernement fédéral parce qu'on ne veut pas les payer, parce qu'on trouve que c'est injuste. Le niveau de rhétorique qui est employé pour résister aux politiques climatiques du Canada et la figure de Stephen Guilbeault, ce qu'il représente dans l'Ouest canadien comme essentiellement élite du plateau Mont-Royal, déconnectée des réalités du Canada rural, si je peux caricaturer comme ça, ça atteint des niveaux de crise politique. J'ai l'impression que c'est notre... Oui, que c'est le système politique canadien qui est vraiment en train de se fragiliser ou d'imploser de toutes sortes de façons parce que le défi des changements climatiques est tellement existentiel pour un pays construit sur l'extractivisme des ressources naturelles essentiellement.
Ben oui, absolument. Hein. La blague, c'est souvent ça. Le Canada, c'est pas un pays, c'est trois compagnies pétrolières dans un grand manteau, là.
Ouais. Des fois, c'est pétrolière, des fois, c'est minière, des fois, c'est télécom.
Les deux. Disons, c'est ça. Une de chaque dans le grand manteau. Mais le fond de vérité là-dedans, c'est que c'est vrai que c'est un échafaudage d'intérêts qui est fragile puis qu'il n'y a pas beaucoup d'unité politique. Puis on le voit en ce moment. Parce que autant la figure de Stephen Guilbeault, d'un côté, peut représenter cet épouvantail-là pour les intérêts et les économies pétrolières, autant. De l'autre côté, Stephen Guilbeault représente aussi la version la plus déprimante de l'échec du mouvement écolo mainstream, tu sais, c'est-à-dire Stephen Guilbeault avant tout, c'était un militant environnemental qui avait une posture qui était ferme dans ses jeunes années et puis qui s'est ramassé à se féliciter d'avoir négocié des petites miettes de gains à la COP28 avec une armée de représentants de l'industrie pétrolière. Là, on imagine difficilement une figure plus cynique, à mon avis.
C'est important ça pour que les gens l'entendent parce que, en tout cas, moi, je travaille beaucoup plus du côté anglophone, puis j'entends la critique de Sylvain Guilbeault par la droite, mais la critique de Sylvain Guilbeault par la gauche, on l'entend plus au Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mm-hmm. sont pas au courant de ce que ça représente de passer d'un côté activiste à ministre libéral et la déception que ça cause aussi à certaines personnes. En fait, les deux il est pris entre l'arbre et l'Écosse, dans un certain sens.
Oui, absolument. Mais ce qui se trouve entre l'arbre et l'écorce, c'est du cynisme, à mon avis, parce que... Puis j'entends les gens qui disent que oui, mais ils vont aller de changer la machine de l'intérieur, etc., conjuguer avec des intérêts qui sont vraiment très en opposition d'un océan à l'autre et avec la conscience... du mouvement écologique, tout ça. Évidemment que c'est pas évident, mais je pense que quand même, au long de son mandat, il a posé des gestes de renonciation qui sont absolument, absolument déprimants, tout en ayant assez peu de pouvoir au sein du gouvernement, parce qu'on sait très bien comment l'épouvantail de la transition hors des hydrocarbures fait paniquer les gens dans l'ouest du pays, tu sais. Fait que oui, non, figure du cynisme à n'en point douter.
Donc, si je reprends la question, à quoi on peut s'attendre comme action 2024? Quelque chose comme une implosion du Canada puis une révolution?
Je pense pas qu'on peut s'attendre à ça. Ce qu'on peut souhaiter, ben moi... Ce que je souhaite, c'est une intensification ouais. du militantisme environnemental qui développe un réel rapport de force, des blocages, des occupations d'infrastructures pétrolières, des actions directes qui ont la possibilité le potentiel de perturber assez pour faire bouger des politiques publiques ou au moins pour tirer l'échiquier politique dans une certaine direction. Moi, je pense qu'en ce moment, surtout entre deux élections, au Québec, on est vraiment entre deux élections, puis là, au fédéral, qui sait? Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire.
Donc finalement, moins parler du gouvernement puis parler des actions populaires et de la pression que ça peut mettre pour changer les choses. Bon, je pense qu'on a une conclusion de ce moment oui. qui fait un peu plus de sens. On a creusé, on a fini par trouver. Merci Aurélie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Aurélie, à Détour, on aime prendre un moment toujours entre nos deux segments pour souligner quelque chose qui a attiré notre attention dans les dernières semaines. C'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne pour la fin de 2023?
Alors, c'est sûr que là, mon sujet, il est un peu à l'abri des grands titres, mais on apprenait...
Parfait.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu plus niché, mais en même temps, je trouve que c'est une question qui est emblématique de tellement de choses, de l'époque dans laquelle on vit. Mais bon, aujourd'hui, 21 décembre, on apprenait que le gouvernement du Québec a décidé de prolonger au-delà du 31 décembre 2023 son entente avec le gouvernement fédéral qui lui permet de détenir des personnes non citoyennes dans les prisons provinciales pour le compte de l'Agence des services frontaliers du Canada. Alors là, si on fait une petite mise en contexte là-dessus, au mois de juin 2023, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il arrêterait de faire ça. Donc là, faut bien comprendre. Il s'agit ici de détenir des personnes non citoyennes qui n'ont été accusées d'aucun crime, qui se retrouvent simplement en situation irrégulière sur le territoire du Canada et qui ont été détenues pour des fins administratives par les agents des services frontaliers du Canada. Et depuis longtemps, le Québec permettait que l'on détienne ces personnes-là dans les prisons provinciales. Et là, en juin 2023, on avait promis qu'on cesserait de le faire parce que ça suscite quand même des questions assez importantes sur le fait de mettre dans des établissements de détention des personnes qui n'ont pas été accusées d'un crime et aussi qui se retrouvent en prison alors qu'ils échappent aux garanties constitutionnelles offertes aux personnes qui sont détenues pour une infraction criminelle. Parce que quand tu es détenu pour des fins administratives, tu n'as pas du tout les mêmes droits. En fait, la durée de ta détention est arbitraire. Elle peut être prolongée de manière pratiquement indéterminée. C'est beaucoup plus difficile de faire un suivi sur les conditions de détention de ces personnes-là, alors qu'on le sait qu'elles sont extrêmement problématiques. Pour donner un ordre de grandeur, là, en 2015 et 2020, qui sont les chiffres les plus à jour, il y a à peu près 2000 des 8000 personnes interceptées par la SFC qui ont été détenues dans des établissements correctionnels provinciaux, ce qui est quand même beaucoup.
C'est pas mal, oui.
Donc, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, puis je trouve que ça en dit long sur la manière dont on traite les personnes non citoyennes et les personnes en situation irrégulière sur le territoire du Canada.
Tu nous as partagé énormément d'informations. Merci pour cette description-là du dossier où tu as raison. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas suivi cet enjeu-là. C'est comme si, du moment qu'on a fermé, entre guillemets, fermé le chemin Roxham, c'est comme si les gens ont commencé à regarder ailleurs, alors que la question de la détention puis des personnes migrantes ne s'est pas arrêtée et qui continuent à avoir des enjeux de droits humains assez urgents. Donc, merci d'attirer notre attention sur un de ces enjeux-là.
Avec plaisir.
C'est bien noté.
Toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête en 2023?
Écoute, c'est peut-être pas pour 2023, mais pour le mois de décembre, on a un nouveau fasciste au pouvoir, quand même. Mm-hmm. faudrait le nommer. Son nom, c'est Javier Milei, qui c'est le nouveau président d'Argentine, qui est entré en fonction le 10 décembre dernier. C'est un gars qui vient d'abord de l'extrême droite, mais de l'extrême droite aussi libertarienne, et qui est une personnalité médiatique qui avait été très, très populiste en Argentine depuis des années. Il vient de prendre le pouvoir. Déjà, depuis les quelques jours qu'il est au pouvoir, il a aboli la moitié des ministères à peu près présents en Argentine. Il annonce toutes sortes de mesures pour essentiellement détruire l'État argentin comme libertarien. Et aussi, j'utilise le mot fasciste parce que il annonce des méthodes répressives très, très, très fortes pour toutes les personnes qui voudraient aller manifester contre ces actions en même temps. Et j'utilise pas ce mot-là à la légère vu le passé politique récent dans un paquet de pays de cette région-là de l'Amérique latine. Mais c'est là où on s'enligne en termes de répression politique en plus. J'ai l'impression que cette nouvelle-là a pas fait assez les manchettes juste parce qu'il y a peut-être une overdose de nouvelles choquantes sur toutes sortes de dossiers en actualité internationale ces temps-ci. Puis c'est décembre, puis je sais pas trop pourquoi, mais c'est lourd d'avoir quelqu'un qui fait passer Donald Trump pour en modérer. Mélie, notre nouveau coucou déjanté à surveiller.
Mm-hmm, absolument, puis surtout dans un contexte où l'Argentine a subi dans les années 2000 coup sur coup des politiques d'austérité puis des réformes néolibérales qui étaient déjà très très intenses. Ça doit être assez angoissant d'être un citoyen en Argentine aujourd'hui. Bien noté.
Toutes les portes du complexe G où se trouvent les bureaux du ministère de l'Éducation sont encore bloquées mercredi matin par les enseignants de la FAE à leur 20e journée de grève.
On n'a pas pu entrer, malheureusement. Mais bon, on est solidaires.
Les fonctionnaires doivent attendre sur le trottoir en face.
Après 21 jours de grève, le ton monte. Des enseignants échaudés perturbent maintenant l'économie en bloquant l'accès aux ports de Montréal et de Québec.
Le gouvernement, ça semble être le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de l'argent. C'est assez. Moi, là, je suis obligé de sortir, d'aller chercher des cartes cadeaux d'épicerie pour mes collègues.
Les jours de grève laisseront des cicatrices sur le réseau de la santé. Avec ce débrayage, le CHU de Québec, qui regroupe 5 hôpitaux, doit reporter plus de 2000 rendez-vous et quelques 130 chirurgies, alors que les blocs opératoires fonctionnent à 70 % de leur capacité. Des retards qui s'ajoutent à ceux générés durant la pandémie et qui n'ont toujours pas été rattrapés.
La période des polycrises ou des multicrises, le fait qu'on soit dans une ère où tout va mal en même temps, essentiellement, c'est ce qui se dégage de 2023. Il y a la crise économique, il y a la crise climatique. Il y a la crise du logement. Et puis, depuis la pandémie, il y a une crise dans à peu près tous nos systèmes publics. Il y a Pierre Poilievre au fédéral qui en a fait un peu son leitmotiv cette année, sa manière de gagner en popularité en disant « Canada is broken ». Et puis, nos institutions, ben, il y en, de province en province, ça varie. Mais particulièrement dans le système de santé, à certains égards, dans le système d'éducation aussi, ça a brassé énormément dans plusieurs provinces à travers le pays. Je voulais en parler avec toi, Aurélie, parce que là, ça fait quand même plusieurs semaines que les syndicats des secteurs publics, de l'éducation, de la santé, des services sociaux sont en grève au Québec. Ça représente plus d'un demi-million de travailleurs et de travailleuses. On va se le dire, ce sont surtout des travailleuses. On estime qu'environ 80 à 85 % de ces membres syndiqués sont des femmes. On l'a vu, il y a une pénurie de profs, il y a une pénurie aussi de main-d'œuvre dans le système de santé qui met une pression sur les femmes qui restent à avoir des conditions de travail qui sont de plus en plus insoutenables. Et malgré tout, là, ça va faire plusieurs semaines que les gens sont en grève avec des fonds de grève qui diminuent. Donc, les gens sont prêts à perdre des milliers de dollars pour envoyer un signal au gouvernement que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment historique ce qui se passe en ce moment au Québec. Mm-hmm.
Oui, c'est historique, mais ce n'est pas surprenant. La grève qu'on voit en ce moment dans les services publics, elle est le fruit de 40 ans de désinvestissement dans les services publics et plus particulièrement en santé et en éducation, qui sont des emplois, des professions occupées avant tout par des femmes. Ce n'est pas anodin dans les circonstances. On se targue souvent au Québec de surfer encore sur l'héritage de la Révolution tranquille avec nos services sociaux très forts. Mais la réalité, c'est que, bon, dès l'aube des années 80, cet héritage-là a été lentement dilapidé. Les écoles publiques, à toute fin pratique, tombent en ruine. Les conditions de travail dans les écoles, au primaire, au secondaire, sont absolument déplorables. On estime aujourd'hui que c'est un prof sur deux qui va abandonner la profession dans les 5 premières années de pratique du métier, ce qui est quand même considérable et qui explique en large part la pénurie d'enseignants et d'enseignantes. Durant la pandémie, on s'est rendu compte de la fragilité de nos services. On a épuisé le personnel, notamment le personnel de la santé. On leur demandait de faire l'impossible avec presque rien. Ils sont ressortis de là dans un état d'épuisement et de colère assez considérable. Même chose dans les écoles, ça a été une période extrêmement difficile. Et là, je pense que ce à quoi on assiste, c'est vraiment un ras-le-bol. C'est-à-dire, hey, là, ça va faire. On a enlevé toute la chair qu'il était possible d'enlever autour de l'os. Puis là, on essaye de casser l'os. Puis la grève et le mouvement qu'on voit en ce moment, c'est le reflet exact de ça.
Je t'écoute, puis je suis comme, oh, j'ai besoin de reprendre mon souffle parce que il y a tellement de nommés différents problèmes. Ça, c'est difficile d'entendre tout ça, puis de pas avoir l'impression que tout va extrêmement mal. En même temps, ce qui est assez particulier, c'est que contrairement à ce qui se passe peut-être au gouvernement fédéral ou dans d'autres provinces, c'est très nouveau que ça finit par affecter la popularité de François Legault ici au Québec. C'est comme si le gars était Teflon pendant des années, alors que tout ça se passait. Et puis que là, en ce moment, ça commence à se refléter dans les sondages. Les gens commencent à avoir une rancœur, peut-être une colère aussi envers le gouvernement Legault à mesure que, essentiellement, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des enfants qui ne sont pas en classe parce qu'il y a des grèves. Et puis, le système, en fait, l'école publique en ce moment ne fonctionne pas d'un niveau où il n'avait pas fonctionné depuis la pandémie. Qu'est-ce qui explique pour toi que c'est en 2023 ou à la fin de 2023 que cette pression-là sur les institutions publiques finit par avoir un coup politique pour le gouvernement provincial?
C'est vraiment une bonne question. C'est difficile d'avoir la réponse. Moi, j'ai une théorie. Je pense que François Legault est arrivé au bout de son aura de la pandémie. C'est-à-dire que pendant la pandémie, c'était l'état d'urgence, la vie démocratique était complètement gelée. Il y avait à toute fin pratique pas de débat parlementaire substantiel. On ne parlait que de la pandémie. Il pouvait se permettre toute l'arrogance qu'il voulait. Il pouvait être autoritaire, il pouvait, même qu'il y avait toute sa mise en scène dans sa façon de gouverner autour de « je suis un bon père de famille qui, en point de presse, dit bonjour tout le monde puis vous explique ce que vous allez faire dans les prochaines semaines ». En situation d'urgence, les gens se posaient pas trop de questions. Puis je pense que là, il continue d'appliquer ce modus operandi politique-là. Puis là, dans un contexte où les oppositions sont crinquées, puis ont quelque chose à dire, puis où il faut renouveler les conventions collectives du secteur public, ça ne passe pas. Puis autant François Legault était capable de marquer des points sur les questions identitaires, autant je pense que sur les questions qui touchent aux conditions de vie des gens, sa déconnexion est très visible aux yeux de beaucoup de gens. Puis là, comme tu disais, les enfants sont pas à l'école, c'est pas très pratique. Je pense qu'il y a ben des gens que ça met pas de bonne humeur. Mais lui, pendant ce temps-là, il ne change pas de ton. Il continue, il se mêle des négociations avec le secteur public publiquement, ce qui est assez notable là, dans l'histoire des négociations du secteur public. Là, d'habitude, les premiers ministres, lorsque le Conseil du Trésor est en train de négocier avec les employés du secteur public, la tradition, c'est beaucoup plus que le premier ministre commente pas trop. François Legault, lui, il s'est pas gêné de commentaires sur « bon, les grévistes, ça suffit, rentrez donc au travail ». Puis ça aussi, je pense que les gens le remarquent puis ils aiment pas ça. Et je crois que c'est ce ton-là, cette arrogance-là qui commence à lui coûter l'appui d'une proportion grandissante de la population.
Ouais, surtout le bout où il est allé dire essentiellement arrêter de faire la grève pour le bien des enfants.
Mm-hmm.
Le premier ministre implore les syndicats.
Il n'y a rien de plus important que nos enfants. Donc, on doit arrêter cette grève. Ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie. Donc, il faut arrêter ça, là. S'il vous plaît, je demande donc à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves.
Je pense que c'est venu toucher une corde sensible de se faire dire que les gens n'avaient pas le bien-être des enfants à cœur. C'est venu toucher quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement de ton aussi à partir de ce moment-là. Là.
Absolument. Absolument. C'est définitif. Puis j'imagine être sur un piquet de grève, là, puis tu sais, un prof qui fait tenir sa classe à bout de bras. Puis qui entend ça, là, je peux très bien imaginer comment ça bouillonne à l'intérieur.
Ben, ça se passe au Québec, mais en même temps, il y a eu des crises similaires ailleurs au pays. Le système de santé, le système d'éducation va pas bien. Pourquoi est-ce que tu penses que la capacité des gouvernements à investir dans le commun ou dans le collectif est aussi difficile, il semble? Semble-t-il, en 2023?
C'est définitivement une question de choix, là. Je veux dire, au-delà du montant là, absolu qu'on attribue aux services publics, il y a aussi des questions d'organisation institutionnelle. Il y a vraiment une grande tendance à la centralisation, à la gestion paternaliste du réseau de la santé et de l'éducation qui s'accompagne d'une dévalorisation de l'autonomie professionnelle des gens qui sont sur le terrain. Puis ça, c'est des questions qui vont au-delà de la simple question du financement. C'est des perspectives idéologiques sur l'organisation de l'État qui tendent bien davantage vers la centralisation puis l'ouverture à l'inclusion de services sous-traités ou privés que dans le sens de la création d'un réseau public fort, adapté aux besoins locaux et autogéré à certains égards. Donc, c'est une conjonction de deux choses. C'est des priorités douteuses et des modes d'organisation institutionnelle qui favorisent pas la santé des services publics.
Et c'est particulier parce que tu disais tout à l'heure, François Legault a l'habitude de marquer des points politiquement sur les enjeux plus identitaires. Une lecture un peu cynique de la situation pourrait dire que toute la crise autour des frais de scolarité à l'Université McGill, l'Université de Concordia, ou les universités anglophones de manière générale qui vont se faire hausser leurs frais de scolarité pour les étudiants canadiens hors Québec, que toute cette crise-là qui crée énormément de remous dans les universités sur leur capacité, sur leurs finances carrément. Dans un monde normal, ça aurait fonctionné comme une distraction par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau des institutions publiques, mais que là, parce que, je veux dire, les enfants ne vont pas à l'école carrément, ça ne fonctionne plus et les tactiques normales qui sont utilisées pour distraire des problèmes structuraux ne fonctionnent plus. On a vraiment l'impression d'être dans un cul-de-sac où, je veux dire, si l'objectif cet automne, c'était d'avoir un adulte par classe, même pas un adulte qualifié, là, juste un adulte par classe pour la rentrée, les gens qui sont en grève n'ont rien à perdre. Comment est-ce qu'on peut voir un dénouement de crise pour 2024? Est-ce qu'on peut revenir à une forme de politique normale, business as usual, après ce qui est en train de se passer, ou quelque chose qui est en train de casser dans les paramètres de faire de la politique?
Chose certaine, pour ce qui est du mouvement de grève actuel, ça va pas être possible d'envisager une sortie de crise sans un changement de ton, parce que les grévistes sont vraiment prêts à aller loin, je pense. Ça peut changer très rapidement, hein? Ils peuvent conclure une entente très vite, puis là, tout le monde rentre au travail, puis bon, on n'en parlera plus dans 6 mois, là. Cela dit, on entend beaucoup ces derniers jours, surtout au sujet des enseignants qui sont déjà en grève générale illimitée, que, vous savez, ils sont partis en grève générale illimitée sans fonds de grève, ils sont déjà épuisés, ils se sont privés de salaire depuis presque 1 mois déjà, ça va pas durer longtemps, c'est une vraie guerre d'attrition, le gouvernement a juste besoin d'attendre un petit peu, puis ils vont retourner en classe en acceptant les conditions qu'on leur impose. Puis j'en parlais avec un ami en fin de semaine qui est prof au primaire. Puis lui, il me disait, il était comme « Hey! » Il prenait la rhétorique à l'envers. Il disait « Hey, justement, j'ai déjà perdu 1 mois de salaire. Tu penses-tu vraiment que je vais retourner travailler pour les conditions que j'avais avant?
»
Ça, je pense que François Legault, faut qu'il l'entende. Parce que moi, je pense que cette affaire-là, c'est pas prêt de disparaître par soi-même.
C'est une bonne manière de l'illustrer. Merci pour ça, Aurélie.
Ben merci à toi.
Il nous reste à faire peut-être un petit mot de fin d'année. C'est pas le segment qu'on fait d'habitude, mais je me disais, c'est la période des résolutions de fin d'année, normalement. C'est la période aussi où on fait beaucoup d'introspection, puis j'avais envie de lancer une réflexion sur ce que ça veut dire être journaliste et quelles résolutions on devrait prendre comme personne qui œuvre dans l'industrie des médias pour la nouvelle année. Parce que, on vient de le voir dans l'épisode, il y a tellement de crises qui se passent à différents niveaux. Et j'ai toujours eu l'impression qu'avoir une tribune, c'est un privilège et donc c'est aussi une immense responsabilité. Une responsabilité notamment de nommer des choses dans l'espace public. Dire en soi est un pouvoir. Et je dis ça, on a parlé de l'Argentine, mais je veux dire, moi, je suis d'origine haïtienne. La famille de mon père a grandi sous une dictature et je pense que les gens qui sont originaires de la Caraïbe, de l'Amérique latine, il y a une tradition du journalisme là-bas qui est de dire les choses. Ça peut te coûter la vie, ça peut te coûter l'exil et les gens, de manière générale, sont dans une tradition journalistique où on comprend le pouvoir de nommer les choses. Et ça m'inspire beaucoup dans ce que j'essaie de faire moi-même humblement à ma propre échelle. Puis j'avais envie de partager ça avec vous en fin d'année parce que je me dis que au Canada, de manière générale, on est très privilégié, on prend la liberté d'expression pour acquis. Et à cause de ça, des fois, je ne sais pas si tout le monde réfléchit de la même manière au fait d'avoir une tribune comme un privilège de nommer les choses et particulièrement le nommer ce qui est le plus difficile à dire, de parler ce dont il n'est pas facile de parler en public, d'aller là où il faut aller et non pas là où c'est facile d'aller. Et les enjeux du 21e siècle sont tellement, tellement difficiles et j'ai l'impression qu'on a du journalisme de facilité, pas de tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Et je suis déçue en partie de la manière dont les médias canadiens ne couvrent pas les enjeux les plus pressants. Puis j'avais envie en fin d'année de nous lancer le défi de faire mieux l'an prochain là-dessus. Il y a une crise de confiance envers les médias pour une ensemble de raisons, mais notamment, je pense, parce qu'il y a des enjeux structuraux, on le sait, qui fait que c'est difficile de faire mieux, mais il y a aussi une part de volonté individuelle de se lever le matin en disant « Non, aujourd'hui, je vais faire le choix du courage, je vais faire le choix de la responsabilité et je vais faire le mieux que je peux avec ma tribune. » J'avais envie de terminer la lignée là-dessus. Toi, pour toi, Aurélie, le journalisme, ça veut dire quoi?
Ben, j'aime beaucoup ce plaidoyer pour un journalisme courageux. Ça me plaît bien. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je pense aussi qu'il faut se donner les moyens de ce courage-là.
Mm-hmm.
Dans le milieu du journalisme aussi. C'est vrai à l'échelle du pays, mais c'est certainement vrai au Québec aussi. On traverse une crise majeure des moyens de production dans les médias. Mm-hmm. La production d'un journalisme de qualité, qui est donc aussi, incidemment, un journalisme courageux, elle est plus précaire que jamais. Et je pense qu'il faut se donner les moyens de soutenir du travail de journalisme rigoureux, en profondeur, dans un écosystème médiatique diversifié, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir rebâtir la confiance du public envers les médias traditionnels.
C'est tout pour Détour aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir participé à l'émission.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.
Où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Alors, les gens peuvent me trouver tous les vendredis dans les pages du Devoir et également tous les mercredis à l'émission Zone Info, les ondes de RDI.
S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous écrire, soit sur X à CanadaLand ou m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com pour participer à cette discussion-là. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Caleb Thompson. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches et merci de soutenir CanadaLand.